Sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Ici Nicolas Lehoux, en compagnie de Jacques Couture.
Bonjour.
Et de Michel Charon.
Bonjour.
Nous sommes à Montréal, dans les studios de Radio Centre-Ville. Et notre thème aujourd'hui sera « Pour être, il faut de l'audace, de la sincérité et du défi ». En effet, être n'est pas quelque chose de très habituel sur la Terre. Les gens sont plutôt à voir. Ils ont beaucoup de choses, mais ils sont pas beaucoup. Il n'existe pas très fort. En tout cas, à mon avis, là, quand je marche dans les rues, je ne trouve pas que les gens ne sont beaucoup. Et c'est sûr que pour être, ben, ça prend beaucoup d'audace. On va y aller étape par étape, là, puisqu'il y a audace, sincérité et défi. Commençons par l'audace. Il faut être très audacieux pour briguer notre « je suis », notre être, parce que on dirait que toute la société est créée en fonction de ne pas être, de nous créer à l'image de robots désensibilisés.
Oui, bien, ça veut dire aussi... mais moi, ce que ça me fait penser, c'est de la peur de s'affirmer, de pas par peur que les autres ne pensent pas comme nous. Alors, on essaie de dire, de dire ce que les autres vont dire dans la même penser, juste...
Suivre comme un courant,
c'est ça. Ouais. Et, tu sais, comme être un mouton pour avoir l'audace de vivre, c'est justement, c'est ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense. Et puis moi, j'ai toujours été reconnue pour ça, de savoir dire ce que je pense. Puis souvent, ça m'amène des ennemis. Mais c'est ça, j'ai l'audace de dire ce que je pense, et puis...
Tu t'en fais pas, on dit toujours que ton pire ennemi, c'est ton meilleur ami. Parce que un ami, il va pas toujours te dire la vérité, il sera pas toujours sincère avec toi. Tu sais, il va te faire plaisir, il va aller dans le sens du poil, mais un ennemi, il va toujours chercher à ton point faible. Donc, un bon ennemi peut être quelqu'un qui nous aide vraiment à être fort.
Oui, c'est bon. J'aime cette idée d'audace. Le fait d'être dans la vie non conformiste, de vivre pleinement sa vie dans sa pleine mesure, ça me ressemble. C'est ce que je cultive jour après jour. Puis les différentes contributions aux chroniques à propos sur le bonheur m'amènent en ce sens-là. Donc, j'apprécie communiquer ce que je vis. Puis, plus que je suis moi-même, plus que j'ai de l'audace. Donc, j'expérimente. Il y a des moments où c'est tellement inhabituel. Je suis toujours surpris de nouvelles situations qui se présentent. Je me dis, ben, j'ai l'impression que je suis comme dans un film. Puis ça, je trouve ça tout à fait épatant. Et ça me réjouit beaucoup dans la vie de vivre ces moments forts-là. Puis je pense qu'on les fait exister en les vivant, puis en s'expérimentant soi-même. J'aurai des exemples au cours de l'émission pour illustrer un peu mon propos.
L'audace de vivre aussi, quand on est des jeunes adultes, je pense qu'il y a une période où c'est tellement important par son habillement de dire qui on est par son habillement. Et c'est pas toujours facile. Moi, je viens d'une petite ville de Gatineau, Hall, Gatineau. Et je me souviens, quand je suis arrivée à Montréal, je pouvais m'habiller plus excentrique, pouvoir justement être qui je suis à travers avec mes vêtements. Et ça a été une grande libération pour moi, parce que dans mon petit patelin, bien, quand tu es habillé différemment ou un peu plus coloré, eh bien, tu te faisais regarder. Alors, ça m'a permis, quand je suis arrivée ici, d'être.
Et quand tu as la vraie audace, tu n'as plus peur de perdre quoi que ce soit. Et puis, c'est là que ça amène à l'être, parce que le « je suis », comme « je suis vraiment moi-même », nécessite ça. Quand je suis arrivé à Montréal, alors j'ai 24 ans, Ça me prenait de l'audace de dire non merci, j'aimerais avoir l'aide sociale, foutez-moi la paix, je veux faire de l'art. Ça n'avait aucun sens aux yeux de la majorité. Et puis j'ai eu une levée de bouclier généralisée. Mais j'avais cette audace, cette folie de dire moi je veux être moi-même. Je veux complètement vivre mon rêve d'être un artiste. Même si finalement je me ramasse tout seul. Et il y a deux moments où je me suis ramassé seul dans ma vie à quelques reprises. J'étais très isolé. Et bon, après, j'ai fait une réflexion là, pour comprendre c'est quoi la différence entre être isolé et être solitaire. Maintenant, je suis plutôt solitaire, mais je ne suis plus isolé. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Mais lorsqu'on est audacieux, ça se peut que oui, on choque. On choque la sensibilité des moutons qui voient ça comme d'un très mauvais œil qu'un d'entre eux sorte du troupeau.
Mais je pense en même temps avec un genre d'autre mouvement social ou de... juste les tendances Facebook ou autres, toutes sortes de réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui veulent, sont en quête de recherche comme ça, de sens et d'audace, de sortir de ce monde conformiste, social, ennuyant et tout, avec une vie traditionnelle. Qu'est-ce que c'est ça? Cette vie-là, ben, ça peut avoir un sens pour certains. Ceux qui ont une vie familiale peut-être et tout, ils ont un cadre, ils ont une organisation. Mais en même temps, plusieurs de gens que je côtoie ou bien juste d'aller sur Facebook ou d'autres médias sociaux, on peut être étonné tout ce qu'on peut y trouver. De la part de même de quelqu'un que j'ai pu côtoyer qui est policier, je regardais, il y en a tout ce qu'il peut y avoir sur le fil d'actualité, des gens qu'on connaît, c'est sûr c'est des amis Facebook comme la plupart des gens, on le sait, hein, les amis Facebook c'est pas nécessairement les amis de notre essence, mais quand même, il y a quelque chose, il y a un échange qui peut se passer, on peut les rencontrer en dehors de ce réseau social-là, et... Parfois, il y a des choses qui peuvent nous surprendre de poster toutes sortes de trucs. Est-ce que le sida existe vraiment et tout, des choses comme ça. Des gens qu'on ne pense pas qu'ils vont poster ce genre d'informations-là. Puis, donc, on peut être agréablement surpris qu'il y a plusieurs façons de penser.
Il y a aussi l'audace de vivre en spiritualité. Hein? Avoir l'audace de vivre. D'ailleurs, Arnaud Desjardins a écrit un livre sur l'audace de vivre. Et c'est pas mon cas, mais il y en a qui ont tout abandonné pour aller faire des expériences spirituelles. Alors, ça prend de l'audace pour faire ça. Ou s'aventurer, ou chercher dans des organisations pour essayer d'aller voir ce qu'on peut vivre comme expérience dans la spiritualité. Ça prend de l'audace.
Bien, celui qui veut s'éveiller, de toute façon, est complètement désespéré d'une certaine manière. Il a arrêté d'espérer quoi que ce soit du monde et il cherche l'éveil. Et moi, j'étais dans ce cas-là quand j'avais 27, 28, 29. Ça a atteint un paroxysme. Et j'avais plus rien à perdre. De toute façon, j'avais presque rien. Et puis, je savais que j'allais presque tout perdre. Et si ce n'est pas tout. Et j'ai pratiquement tout perdu, sauf moi. Je ne me suis pas perdu, moi. T'sais, j'avais une compagne à cette époque-là, elle a fini par reculer un peu parce que c'était trop intense, la vie que je voulais mener. On est encore très bons amis, mais elle n'est plus ma compagne. Mais je crois que c'est nécessaire pour être, pour vraiment y arriver à être. L'être repousse l'avoir. Mm-hmm. Si on regarde les grands maîtres, là, les vrais grands maîtres, ils n'ont généralement pas d'argent. Ils sont peut-être entourés de gens qui en ont, mais eux ont rien, généralement. Ceux qui en ont, à mon avis, c'est douteux. Tu vois des gens qui se donnent comme des maîtres spirituels, qui sont très, très riches. C'est douteux, souvent. T'sais, il peut y avoir des exceptions, ouais. Là, mais généralement, l'être fait que tu vas dire des choses tellement grosses, tellement énormes. On parle des philosophes, on parle de... Je sais pas, le Christ qui disait la vérité, le André Moreau, des gens qui vont aller... qui vont être, vont généralement pas être très populaires, en tout cas aujourd'hui, là, dans notre société.
Eh bien, ils vont être stigmatisés au-delà, hein. Ils vont être contestés. C'est quoi les grandes pensées qu'on associe à ces mouvements-là? La controverse, le fait qu'ils sont marginalisés, là, on va les mettre de côté parce que leur propos contrevient à l'ordre établi, là, en quelque sorte.
L'audace d'être aussi, ça peut être aussi, même si en 2015, on croit que c'est très, très bien accepté, l'homosexualité, mais je pense que l'audace d'être, c'est aussi s'afficher en amoureux avec le même sexe et ne pas avoir peur d'être.
Ah, ben, je suis ravie de t'entendre, Michel. Hein? c'est ce qui anime ma vie particulièrement, les rencontres, les hommes et tout. Donc, je vais, au fil des semaines, là, j'ai de nouvelles chroniques qui se présentent là, en ce sens-là, le gay savoir. Donc, j'aime parler aussi de ce que je vis, tout à fait.
Oui, parce que moi, j'ai un frère qui est homosexuel et il a eu l'audace de le dire. Et on était là dans les années 76, 74. Et à ce moment-là, c'était vraiment marginal. Et moi, je lève mon chapeau vraiment pour que il s'est affirmé et ça s'est affiché. Ça, c'est de l'audace.
Bien, on va aller faire une pause, puis nous allons revenir après avec ce thème. Pour être, il faut de l'audace, de la sincérité et du défi.
Des audacieux, j'ai dansé la java avec un chien malheureux, j'ai tourné à tout va, abusé d'un regard, les fesses des filles marginales, et j'ai dansé le Maloya avec l'espoir. J'ai perdu le cours des heures dans les filtres membranes et fréquences du sang. J'ai demandé à la nuit son tremblement de corde, debout son couronnement de pluie. À la place de ma tête, une danseuse de buto et des mains un accord diminué de manc. J'ai demandé à la nuit son tremblement de corde.
Escape from a bordo.
J'ai vu dans le fond d'un verre la sueur des Caraïbes, un verre qui coutaille, le battement de cœur de la campagne de Fès, pour un trait de citron amer. Le doigt harnaché, la peine des femmes, un verre qui coutaille, la traversée des mers. J'ai demandé à la nuit son tangage doule, un verre qui coutaille, Colombe à la mairie. À la reine des audacieux, j'ai dansé la java avec un chien malheureux, j'ai tourné à tout va, abusé d'un regard, les fesses des filles marginales, et j'ai dansé le Maloya avec l'espoir. À la bouche les mots des naufrages des hommes. J'ai demandé à la vie son résidu de gloire, cette chose belle et irréversible. J'avais tous mes frères de l'ombre avec moi ce soir-là, serré pour un couronnement de suie. J'ai demandé à la vie son tangage de houle.
Escape from a bordel.
Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Pour être, il faut de l'audace, de la sincérité et du défi ». On a beaucoup parlé de l'audace en la première partie. Nous allons peut-être plus aborder ici la sincérité. Pour moi, la sincérité, c'est bon, d'abord et avant tout la sincérité envers soi-même. Parce qu'on ne peut pas, à mon avis, être sincère envers les autres si on ne l'est pas envers soi-même. Et de savoir quels sont nos désirs, quels sont mes désirs à moi. Moi, j'ai toujours été très sincère envers moi-même, ayant eu ma passion qui s'est développée dès l'âge de 10 ans. Je faisais de la bande dessinée, donc j'en ai beaucoup fait. Et j'ai jamais laissé personne me dire d'aller ailleurs ou de faire autre chose. Certaines personnes ont essayé, mais ça n'a pas vraiment fonctionné parce que j'étais sincère envers moi. Donc, moi, j'ai comme une capacité de tout. C'est comme si je prenais tout puis j'en faisais du moi. Tu sais, je suis allé étudier en administration des affaires. Ça n'a aucun rapport avec l'art. Mais à l'époque, moi, je voyais déjà le lien. Je me disais, ouais, le marketing va m'aider à vendre mes bandes dessinées. Et puis, aujourd'hui, c'est vraiment ça que je fais comme travail. Je travaille beaucoup en marketing. Je fais des sites Internet. Et donc, en étant sincère avec moi, en étant vrai, je suis parce que je me donne cette possibilité d'être exactement ce que je me suis donné à être. Ce qu'on peut appeler l'antéléchi. C'est-à-dire qu'avant de me manifester dans ce monde, j'avais déjà une finalité, j'avais déjà un but. J'avais quelque chose à être. Mais en n'étant pas sincère, eh bien, c'est là qu'on prend des voies d'échappement, des plans B, et puis là, on se ramasse loin de nous-mêmes.
Oui. Mais pour être sincère, il faut d'abord se connaître. Hein, c'est tout un travail de se connaître. Moi, en tout cas, j'ai fait beaucoup de thérapie et je me prépare pour faire bientôt une analyse sur moi encore, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et puis, parce que pour moi, c'est important, la sincérité. Et j'ai toujours, moi, voulu, je me considère comme une artiste. J'ai toujours voulu devenir comédienne. Je continue de prendre des ateliers. Et je reste avec moi sincère là-dedans et je respecte ce choix que j'ai fait malgré que je ne gagne pas ma vie avec ça. C'est ma sincérité à moi. C'est ce que je représente ça pour moi. Et je respecte ça puis je suis sincère avec ça. C'est comme ça que je le vois.
Michel, aussi, tu parles de se découvrir, de se connaître, mais aussi, il y a un autre volet qui consiste au fait de s'inventer. Donc, se découvrir soi-même en devenant autre, je parlais de l'audace tout à l'heure. Donc, au fil du temps, moi, j'ai appris, avec mes études ou avec le sens que j'ai donné à ma vie, à expérimenter, à me baser sur mes intuitions, et à improviser ma vie, en quelque sorte. J'improvise, par exemple, dans mes études, je ne savais pas du tout à l'université qu'est-ce que j'étais pour faire comme programme. J'ai dit, tiens, étudiant libre. C'est un beau titre au point de départ pour rentrer dans l'université. J'ai dit, voilà, c'est un point de départ, plutôt que choisir un programme comme toi, Nicolas, en administration. Donc, évidemment, j'avais une quête de me connaître aussi. Des sciences sociales, les cours en psychologie, counseling orientation, la gérontologie, l'étude du vieillissement. C'est pas parce qu'on parle du vieillissement qu'on peut pas parler en même temps de la jeunesse. Hein? C'est tous les étapes de la vie, de la croissance, de ce que nous sommes. Donc, il y a un programme que j'ai particulièrement aimé, c'est l'anthropologie. C'est l'ethnologie des différentes cultures, des différentes sociétés. Donc, connaître la culture des autres pays, pas juste des pays occidentaux. Ça donne une ouverture sur la vie, sur les gens. J'avais un cours, en particulier un professeur captivant. Son cours, c'était comme un spectacle. Chacune des phrases, on dirait, chacun des cours, hein, parce que dans une session, il y a 15-20 cours au moins. Donc, il était captivant. Et son point, c'était toujours, c'est un cours d'ethnologie de l'Afrique, eux sont développés à un autre niveau que nous. Nous, c'est au niveau des technologies, au niveau social, de l'organisation technologique, si on veut, et médicale. Là-bas, c'est l'organisation sociale qui prédomine, la force des liens qui entrent les gens. Donc, j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Et encore aujourd'hui, ça m'anime beaucoup. Si j'ai des recherches qui peuvent m'intéresser, c'est d'aller dans ce sens-là, aller faire des recherches en ethnologie.
Tu sais, c'est ça que, qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on aime. Moi, je me souviens toujours de cette phrase en anglais, c'est « follow your bliss ». Suis ton nirvana, ou suis ce qui va te rendre le plus heureux. Et c'est, si tu ne fais pas ça, c'est là le problème. Tu sais, beaucoup de gens vont faire quelque chose pour faire plaisir aux autres. Moi, je connais une jeune femme qui est... Ses parents sont avocats et puis lui ont dit « on va te payer tes cours à l'université en avocat, mais si tu choisis autre chose, on ne te les paye pas. » Et puis ça, des fois, tu es mis devant des choix déchirants comme ça. Est-ce que je fais ma voie et ça va être plus difficile ou je vais dans la facilité? Il est une fausse facilité parce qu'en fait, ça rend ta vie plus difficile en n'étant pas toi-même. Donc, en étant sincère, moi, je me rappelle très bien quand je suis arrivé à Montréal. À 24 ans, je me suis assis. Là, j'étais juste en septembre. Puis là, je devais décider. Là, j'avais pas beaucoup d'argent sur moi. J'avais à peu près juste 2 000 $ pour X temps. Et puis là, je me suis assis devant un journal pour trouver une job. Puis je me suis dit, est-ce que j'ai le goût de travailler? Puis tout de suite, j'ai dit non. J'ai laissé faire ça. J'ai pas perdu mon temps. Mais j'ai été sincère envers moi-même. J'aurais pu me mentir puis faire semblant. Mais ça aurait été souffrant parce que franchement, j'ai eu du plaisir là, pendant 8-9 ans à ne pas travailler. Et ça m'a permis justement, d'une part, de me découvrir, mais de m'inventer surtout. Parce que j'étais tellement moi-même. J'étais tellement, avant même de savoir, de comprendre c'est quoi le « je suis ». Parce que le « je suis », c'est peut-être pas quelque chose que la majorité des gens peuvent comprendre. Mais lorsqu'on étudie la spiritualité, ça va sortir parfois, un peu partout, le « je suis ». C'est l'être, c'est ce dont on parle aujourd'hui, être. C'est quand je pense que c'est Jésus disait à un certain point, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Donc le « je suis » est hors du temps et de l'espace. Lorsqu'on est dans cet état-là, ça dépasse vastement la personnalité humaine, ça dépasse la réalité physique, la matérialité. On est vraiment dans l'infini, dans le divin.
Et la sincérité n'est pas toujours confortable parce que, surtout quand on a des conversations publiques, il faut être surtout « politically correct », comme on dit. Alors, c'est pas toujours bienvenu, la sincérité.
Elle est généralement inconfortable.
Oui, mais en même temps, je pense que je parlais d'expérience. Moi, c'était un grand... c'est pas la première fois que je le vivais, là, mais j'étais en vacances récemment. Pour moi, la sincérité, c'est aussi et d'être vrai, c'est être pleinement soi. Je le vis aussi au travers des expériences dans le naturisme. Et on dit que quelqu'un qui est nu, il est vrai. Donc, moi, ça a été un moment fort d'absolu, mes dernières vacances, parce que je côtoyais la nudité, c'est au-delà, c'est une composante peut-être de la sexualité, mais c'est bien au-delà. C'est une rencontre vraie avec l'autre, avec tout ce qui existe, avec la nature. Ça, j'étais dans un endroit paradisiaque à Cayo Largo, à Cuba. Mais tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai trouvé ça formidable. Des gens de toutes sortes, des gens formidables, par exemple de l'Outaouais, assez obèses, en tout cas un certain embonpoint, l'homme comme sa femme. Ils étaient tellement bien, comme un ami me relatait tout ça. Il dit, c'est extraordinaire de voir ces gens-là. Ce couple-là, ils sont tellement beaux sur la plage. C'est aucunement le standard de beauté. Parce qu'ils sont vrais, parce qu'ils font ce qu'ils aiment, parce que ça les anime, parce qu'ils peuvent être pleinement eux-mêmes comme ça, aimer cette beauté et vivre ce qu'ils sont. C'est extraordinaire, ça. On ne le réalise pas. On se dit, ben voyons, on ne les verrait jamais dans un magazine, ces gens-là. Mais en même temps, sur une plage, c'est comme si c'est tellement beau, cette vérité-là. Donc, c'est ça d'être sincère, d'être pleinement soi et de l'exposer aux autres ce que l'on est.
Puisque tu le mentionnes, quand on fait des rêves et on est nu,
oui, hein?
La nudité représente la vérité, justement.
C'est bon,
j'en ai fait un, justement, cette nuit.
Ben, ouais.
J'étais nu dans un gros party, j'étais le seul à être nu.
Nu dans le sens propre et figuré,
oh,
si
oui,
tu dors nu.
J'étais complètement nu, puis je me sentais bizarre, t'sais, d'être nu, puis peut-être un peu inconfortable. Mais en vérité, ça représentait plutôt la nudité dans la sincérité totale que moi je suis totalement vrai, je suis nu face aux gens, tu sais, je dis vraiment ce que je pense dans l'émission de radio, mais dans mes livres, et je vis ce que je dis, et je suis sincère envers mes compagnes. Mais par exemple, cette semaine, moi, j'ai la chance d'avoir 2 compagnes chez moi, dans ma maison, donc J'aurais pas pu faire ça si j'étais pas totalement sincère. Et tu vois, là, je suis venu ici enregistrer l'émission et là, ils sont partis tous les deux aller magasiner ensemble. Moi, je suis au paradis d'avoir ce niveau de sincérité. Peu de gens peuvent l'avoir, de dire la vérité au point que les deux compagnes sont capables de se parler et d'aller magasiner ensemble. Mais on va faire une pause musicale avec Tal qui chante « On avance ». Puis, nous allons revenir après la pause avec ce thème. Pour être, il faut de l'audace, de la sincérité et du défi.
Je pense qu'ils oublient un peu trop vite que le monde est tel qu'ils l'ont laissé. Mais on n'est pas tous des abusés. On manque juste un peu d'air de repère. N'importe où que l'on aille, on marche sur une vague.
Propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Pour être, il faut de l'audace, de la sincérité et du défi ». Je crois que nous en sommes au défi. Être défiant, relever ses propres défis. Être est un défi en soi, c'est pratiquement impossible. Moi, j'irais même dans le même sens que Gurdjieff, c'est impossible. Sur la Terre, c'est impossible d'être. Donc, quelqu'un qui est une exception. Parce que tout le système est fait pour avoir, faire, mais certainement pas être. Si on veut mieux comprendre, on pourrait bien prendre l'image de Matrix. La matrice, elle est faite pour garder les gens endormis. Pour ceux qui ont vu le film, ils vont mieux comprendre. Donc, Neo représente l'éveillé, représente l'être, celui qui est, qui sort de la machine. Parce qu'une fois que tu es, tu peux revenir dans la machine. Mais tu as quand même toujours la loi générale qui va être contre toi. Donc, la loi générale, c'est ce qui nous fait nous endormir et rester endormir. Et la peur, ça amène la peur. Donc, pourquoi dans les médias, on a toujours la peur? Donc, comment relever des défis quand on a peur? On est, je trouve, dans un monde de peur. Et toujours, ça vient de tous les sens, la peur.
La peur et le manque de communication réelle avec les gens et tout, c'est bon qu'il y ait les médias sociaux, comme je disais tout à l'heure, mais est-ce qu'on communique vraiment avec les gens? Il s'agit d'abord d'être à l'aise pleinement avec soi-même, de s'apprécier beaucoup, d'avoir de l'estime de soi pour aller vers les gens, mais aussi pour parler aux gens que l'on ne connaît pas. souvent on dit, bien, on a de l'assurance, on est à l'aise avec les gens, on peut faire des parties extraordinaires avec les gens que l'on côtoie, que l'on connaît depuis plusieurs années, des amis qu'on partage certaines activités ensemble, ou qu'on, une sorte de groupes sociaux, hein, d'échanges sur des sujets, par exemple, des gens qui vont suivre des cours de langue entre eux, ou qui vont aimer un mouvement philosophique, ou une sorte de mode de pensée, ou un groupe de rencontres de toutes sortes. Hein. Il y a le Club des Joyeuses Rencontres, hein, entre autres, que j'apprécie, que j'ai hâte de participer à de prochaines activités. Donc, mon propos, c'est que il peut subvenir toutes sortes de situations juste en marchant dans la rue. Va-t-on vraiment parler, s'arrêter, aller vers les gens ou dans le supermarché? En achetant, l'autre jour, j'achetais ce que j'aime beaucoup, un pâté de foie qui est excellent, là, de marque Plaisir Gastronomique. J'essaie de voir à quoi il est aromatisé, un alcool français qui est très bon. C'est extraordinaire. Puis là, il y avait un jeune français à côté, je lui disais, ah, c'est tellement extraordinaire ce pâté de... C'est du foie de canard, finalement. Ça me revient, mais je ne me rappelle pas de l'alcool qu'elle contient. Donc, c'était un point de départ pour converser, puis on parlait de tous les plaisirs de la vie associés à la table et tout. Il me dit, ben, est-ce que tu sais si je peux trouver des lardons ici? Je dis, bien sûr, il y en a, mais ça coûte la peau des fesses ici au Québec par rapport en France. Mais c'était extraordinaire l'échange, le point de départ. C'est une sorte de petite audace, de point de départ, mais on ne se rend pas compte comment, après, c'est très ressourçant, c'est très agréable faire ces rencontres-là.
Ouais. Mm-hmm. Un moyen que j'ai trouvé pour défier l'entrave à l'être, je dirais la méditation. La méditation, on peut parvenir à vraiment, à certains moments, à être dans la méditation. Pas tout le temps, pas tout le monde, mais c'est possible. C'est un défi, en tout cas.
C'est évident, faut juste faire le test en s'assisant un peu et on voit que le mental part au galop comme un cheval, je me rappelle. Quand j'ai commencé à faire ça il y a quelques années, une dizaine d'années, au début, j'étais irritable, irrité. Je demandais à ma compagne de ne pas faire de bruit. Oui, puis là, tout d'un coup, j'ai compris. En fait, le bon méditateur, le vrai méditateur, devrait être capable de méditer n'importe où.
Oui, tout à fait.
De ne pas déranger les autres. Et là, à partir de ce moment-là, j'étais en paix. Même s'il y a des bruits, OK, je vais laisser le bruit passer à travers moi. Mais oui, c'est un vrai défi. Faire de la méditation, dans le fond, c'est de dire, je vais dans le sens contraire du monde, en fait, parce que tu ne fais rien techniquement. C'est ne rien faire. En fait, à mon avis, c'est faire quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est de faire du Dieu. Faire quelque chose qui va te rapporter dans la permanence, qui va t'aider à être plus
permanent.
Mais
c'est aussi laisser l'être être.
Moi, ce que je verrais aussi, évidemment, je pense qu'on peut trouver, en faisant l'amour, une sorte de méditation, en quelque part aussi, un ressourcement, quelque chose qui nous excite, qui constamment alimente nos pensées, des souvenirs, etc. Des choses très stimulantes sexuellement. Je pense à une rencontre avec un massothérapeute. C'est sûr qu'il y a une approche tantrique un peu inhabituelle. C'est sûr qu'il caresse tout mon corps avec son pénis pendant la séance de massothérapie. C'est pas un massothérapeute conventionnel, je dirais, mais en même temps, il a étudié en Asie, il y a une approche de massothérapie suédoise et autres. Puis ensuite, souvent, c'est comme ça, hein, les massothérapeutes, on pourrait dire pour gays, là. Il y a toujours un volet un peu plus sexuel, dans le sens que... Mais je dis ça en même temps, les massothérapeutes femmes, qui, lorsqu'ils ont des clients hommes, les hommes vont rechercher, surtout à la fin d'un bon massage, une bonne masturbation jusqu'à éjaculation. Donc, évidemment, mais moi, ce que j'ai fait, vu que mon massothérapeute est tellement beau, il me stimule à un haut niveau. Donc, je lui prends les fesses, je le caresse, je lui dis qu'il est beau. Il y a des abdominaux formidables, j'embrasse ses abdominaux. Je lui dis, moi, je veux sculpter, moi aussi, ma barre de chocolat. Mais ce qui m'a stimulé à un haut niveau, c'est une sorte de défi ou d'audace, encore une fois, que je parle tout en racontant ce vécu ou cette expérience de massothérapie que j'aime renouveler à l'occasion, c'est que je le masturbe, mais tellement longtemps, je lui dis, c'est extraordinaire. Après, là, j'y repense pendant des jours, je dis, mais comme c'est excitant que j'ai masturbé plus longtemps, je l'ai masturbé plus longtemps lui qu'il m'a masturbé. Puis c'est supposé être lui qui joue le rôle de me faire jouir, mais moi, ça se présentait autrement cette journée-là. J'avais le goût de lui faire plaisir. En tout cas, c'est moi qui aimais. Mais j'ai dit, mais comme c'est extraordinaire, après, j'étais transporté par ce plaisir, par ce bonheur, par cette jouissance de la vie, par la sexualité. Donc, vivez-la si c'est ce que vous souhaitez. Ben, trouvez-vous votre massothérapeute avec qui vous avez une belle complicité comme moi.
Il y a une certaine folie, niveau de folie dans l'être.
La folie, oui.
Une folie contrôlée, bon, jusqu'à un certain niveau, je pense. De sortir justement des ornières qu'on nous a données dès la naissance, hein, parce que ça commence dès l'enfance. On t'a dit tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ci, touche pas ci, fais pas ça avec ta sœur. Et puis là, l'école arrive, non, ok, encadrement, fais pas ci, fais pas ça, sois là à telle heure. On est tellement encadré. Mais cet encadrement est toujours dirigé vers l'avoir. Oui. Avoir, parce qu'on te taxe cet avoir, donc on te vole cet avoir. Et finalement, en bout de ligne, à la fin de la vie, si tu as juste eu, si tu as juste été dans l'avoir, tu n'as plus rien, tu n'es pas. Et c'est triste de voir des gens comme ça qui arrivent à 60, 70 ans, puis ils arrêtent de travailler, puis ils sont dans un vide, et puis ils meurent. Je veux dire, je pense que c'est démontré.
Ils ont passé à côté de plein de belles aventures qu'ils auraient pu avoir. Moi, en tout cas, de l'âge de 17, je pense, jusqu'à 30 ans, à un moment donné, je me suis arrêtée parce que j'ai commencé à... J'ai eu une famille, tout ça, mais j'en ai fait plein d'aventures, plein d'expériences que j'ai pas le goût de vous partager ici. C'est des choses intimes. Mais oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis, je trouve qu'il y avait des défis à relever là-dedans. Des choses qui étaient justement peut-être pas nécessairement permises ou qu'on a fait ce qui était pas politiquement correct. Mais j'ai fait mes expériences et j'ai trouvé ça m'a permis un certain épanouissement. Et qui fait qu'aujourd'hui, je me sens une femme assez comblée.
Donc, tu passais, Michel, au-delà des interdits là, et tout, que tu sentais à cette époque-là.
Les tabous surtout. Oui.
Moi, j'ai écrit dans ma porte, là, quand je sors de chez moi, c'est marqué « oser ». Et pour être sûr de jamais oublier. T'sais. Et puis, des fois, je vais oublier, mais quelqu'un arrive chez moi, puis il voit l'affiche, tu es un peu déchiré, ça fait longtemps qu'elle est là, puis il dit « ah, oser ». Et ça me rappelle, tu sais, j'aime bien, moi, écrire des petits mots comme ça un peu partout sur mes murs pour que si, voilà, moi, à un moment donné, je finis par les oublier, quelqu'un me le rappelle. Et oser, pour moi, c'est important. En tant qu'artiste, il faut oser se dépasser. Il faut oser aller plus loin dans toujours, parce que sinon, c'est endormant, c'est toujours la même chose. Et puis, il n'y a pas de plaisir. Moi, c'est quand je me dépasse, quand je viens de refaire le site du mouvement jovialiste, et pour moi, c'était un défi incroyable. J'étais obsédé pendant 3 mois, là, j'y pensais juste à ça. Je me couchais à 2-3 heures du matin. Mais pour moi, c'était un défi et je l'ai relevé. Maintenant, il y a une paix en moi. C'est incroyable. Je me sens assouvi. Je peux passer à un autre défi. Mais celui-là, il a été réussi. C'était de créer un site avec être capable de faire que les gens puissent s'inscrire directement, automatiquement. Et ça, c'était je l'avais du jamais vu dans ma vie.
Donc, l'affiche que tu parlais tout à l'heure comme « oser », c'est une sorte de... ça affiche comme des mots de pouvoir, des mots qui te réfèrent à quelque chose. Pour toi, est-ce que tu en as d'autres styles de ces affiches?
Ben, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup qui se succèdent chez moi. « Préfère-toi à quiconque
». On peut inventer les nôtres.
Ouais, je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Pour moi, c'est très, très important. Parce que pour être... Il faut sortir du film. Tantôt, tu parlais que tu avais l'impression d'être dans un film. Et puis, c'est ça. Je crois qu'on est dans un film. La réalité, c'est comme un rêve, un film. Et pour en sortir, bien, tu dois être conscient, lucide. Pour être, il faut être lucide. Donc, moi, je l'ai marqué sur mon mur pour « je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens ». Parce que, bon, c'est pas si facile. On nous apprend à attaquer ou à nous défendre. Mais si tu fais ni un des autres... Ni un ni l'autre, qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste décider du sens. Bon, pour bien comprendre, je pourrais donner un exemple simple. Dans un rêve, tu peux, par exemple, te faire attaquer par un ours. Donc, tu peux soit te sauver, ou tu peux soit l'attaquer. Mais moi, si je décide de décider du sens, donc je dis, ceci est un rêve. Je désactive l'ours. Et on peut faire ça là, dans la réalité. C'est pas toujours aussi évident, mais moi, j'ai appris à le faire. Et puis quand on me demande de me défendre, d'attaquer, ben maintenant j'y pense à deux fois, parce que je sais très bien que ce n'est pas dans la, dans la conscience, ce n'est pas dans un être conscient qui fait ça. Bien, on va passer avec, on va commencer une nouvelle chronique aujourd'hui de Linda René, qui s'appelle « L'art de vivre ». Et puis, nous allons revenir après avec ce thème « Pour être, il faut de l'audace, de la sincérité et du défi ».
Ici Linda René. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner une brève introduction d'une approche qui a fait une grande différence dans ma vie, qui s'appelle « The Work », en anglais, « Le travail » de Byron Katie. Et cette approche est dans la lignée des approches cognitivistes, donc ça veut dire qu'on observe l'impact des pensées sur l'humeur, notre état intérieur. Et puis, c'est arrivé à un moment de ma vie où je vivais des défis à tous les niveaux. Et quelqu'un l'a fait sur moi, a fait le travail, et je ne le savais pas. Pour vous dire à quel point ça peut être quelque chose qui est... Oui, c'est du travail, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut se faire dans le plaisir, qui peut se faire dans un espace de vraiment... pas aride du tout. C'est qu'il s'agit de poser des questions quand on croit une pensée qui peut nous effrayer, qui peut nous rendre agressifs, inquiets ou tristes. Donc, devant une pensée qui pourrait être, par exemple, je ne sais pas, moi, ma vie est finie. C'est une personne qui vit une période dépressive. Est-ce que c'est vrai? Deuxième question, peux-tu être absolument sûr, hors de tout doute, que c'est vrai? Chaque question est intéressante, parce que si on le fait sincèrement, c'est sûr qu'on va arriver à des découvertes étonnantes. La troisième question, c'est comment j'ai réagi, comment réagis-tu quand tu crois cette pensée? Par exemple, la personne qui, je sais pas, qui perdrait une personne qui lui est chère, un emploi, un statut, un état de santé, quoi que ce soit. Comment réagis-tu quand tu crois cette pensée? Mais en général, ça a le don d'amplifier tout de suite les émotions négatives, de nous mettre dans un état de combat intérieur avec soi-même, avec les autres. On peut examiner aussi quand, la première fois, on a eu cette pensée-là. Puis c'est surprenant, des fois, on s'aperçoit qu'on l'a déjà pensé à des fois à un âge très jeune. Et puis la quatrième question, c'est « Qui serais-tu si tu ne pouvais pas penser ça? Ma vie est finie. » Puis j'ai vu des gens, des fois, leurs yeux devenir brillants, lumineux, puis me dire « Ben, je sais pas, j'aurais au moins encore le goût de vivre, j'aurais peut-être de l'espoir, je serais peut-être moins en combat. » Et puis, c'est de s'apercevoir que des fois, des pensées, des croyances deviennent un peu comme nos patrons. On leur donne toute l'autorité, on se débranche de notre intérieur. Et puis, cette approche-là, ce que je trouve que ça fait, c'est que ça donne de l'espace. Ça fait qu'on cesse de s'identifier à notre histoire triste. On cesse de la répéter. On cesse d'en faire la preuve parce que on a tendance à vouloir manifester ce qu'on croit, même si c'est des choses tristes, malheureusement. Donc, essayez d'identifier des croyances qui vous rendent heureux, et ça va être d'autant plus facile de l'être.
Retour à propos sur le bonheur. Notre thème aujourd'hui est « Pour être, il faut de l'audace, de la sincérité et du défi ». Donc, si on revire ça à l'envers, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'être n'est pas fugitif, n'est pas inquiet, n'est pas hésitant. Il faut arrêter d'avoir peur. La peur est tellement généralisée. Aujourd'hui, on a peur de pas avoir d'amis, peur de perdre sa job, peur de... Si, mais quand on est dans la peur, il n'y a pas de « je suis ». Parce que le « je suis » n'a pas peur. Le je suis est la plénitude totale. Le je suis, c'est l'énergie maîtresse de l'univers. C'est, on est tout quand on est le je suis. Donc, pourquoi avoir peur? Il faut arrêter d'avoir peur d'être seul, de mourir, peur de ci, peur de ça. Et puis, faire confiance.
Mais la peur vient d'anciennes blessures qui remontent à la surface au moment où on vit une relation. Et cette peur-là revient. Alors, il faut guérir cette blessure-là qui était là déjà avant, en tout cas, qui remonte à la surface. Et puis, c'est en ayant guéri cette blessure-là que les peurs vont partir. Parce qu'elles vont toujours rester là si on ne va pas à la base de la peur. En tout cas.
Mais l'être n'est pas dans le temps et l'espace. Donc, toi, tu parles de quelque chose qui se serait passé dans un passé hypothétique qui n'existe pas. Donc, quand tu es dans le « je suis », je veux dire, il y a des maîtres. Ramana Maharshi est mort du cancer. Il n'en était pas moins totalement en illumination parce qu'il vivait dans l'ici maintenant, mais il est mort du cancer. Donc, il faut faire la part des choses. Le « je suis » est au-delà du temps et de l'espace. Donc, il n'y a plus ce genre de blessure-là dans l'être parce qu'il les englobe. Je suis malade, comment je peux prendre cette maladie pour me rendre plus heureux? Comment je peux la bonifier?
Souvent, Michel, tu dois faire référence aussi au fait qu'on est tous, on dirait que par défaut, par notre éducation, des gens qui sommes possessifs et qui sommes un peu jaloux dans les rencontres qu'on a lorsqu'on a quelqu'un dans notre vie. Moi, je me rappelle la première personne que j'ai fréquentée, j'avais 19-20 ans, puis j'ai été avec lui pendant presque un an. Puis, j'ai tellement trouvé ça ennuyant dans le sens, au fil des mois, d'être toujours confiné à la même personne, mais en même temps, ce qui faisait que j'étais pas harmonieux, que je vivais pas bien cette relation-là, c'est que il y avait son ex qui était dans le décor, je le voyais un peu, ça me blessait, ça me dérangeait, ça me rendait anxieux. Je me dis, c'est quoi cette histoire-là? On est supposé être plus heureux, hein, quelque part, si on a quelqu'un dans notre vie. Mais non, c'est comme si là, j'avais une sorte de jalousie qu'il puisse avoir encore une complicité avec son ex. Je dis, quelle histoire? Après quelques mois, presque un an, j'ai dit, ben c'est beau, ça ne me disait plus rien. J'étais pendant des années où je n'ai pas eu vraiment le goût d'avoir quelqu'un dans ma vie parce que j'étais toujours pris, là, tourmenté par ce genre de relation-là. Donc maintenant, là, je viens de faire une rencontre, puis au contraire, j'expérimente, puis c'est comme si ma nature profonde, je suis bien parce que cette personne-là n'est pas exclusif. Je trouve ça extraordinaire. Il me raconte sa sexualité, ce qu'il vit avec d'autres partenaires. Alors, je trouve ça hautement excitant. Je raffole, je demande qu'il me raconte ça à chaque fois qu'on se voit et tout. J'avais un ami de Québec qui était de passage chez moi en fin de semaine passée. Ben, c'était l'occasion qu'il a pu faire sa connaissance. Puis à côté de moi, je les ai vus dans le lit. Hein. Puis je me suis joint un peu à eux. C'était un jeu, c'était extraordinaire, c'était beau. J'ai dit, après, je lui embrassais les mains tant que je trouvais ça extraordinaire à chacun, à mon ami, puis à mon nouveau copain. J'ai dit, c'est beau de vous voir comme ça. Il y a un bout de temps, mon ami est allé, il est dormi dans ma chambre, puis au petit matin, il est allé retrouver mon ami dans le salon. Je veux dire, comme c'est amusant, comme ça me fait plaisir. C'est ça, le paradis terrestre, je le vis là en ce moment, encore une fois, après mes vacances. Double paradis terrestre. Le mois passé, puis encore une fois, le paradis terrestre se poursuit.
Ben,
ah, c'est le même mois, c'est vrai. C'était pas un autre mois.
Mais moi, pour être, je vais être sincère avec vous, pour être, il faut à certains moments que je sois seule. Parce que mon défi, c'est justement... Alors, bon, je recommence. Mon défi, c'est d'être en couple, mettons, mais de ne pas être jalouse. Parce que moi, je suis jalouse, c'est le contraire de toi. Moi, je ne suis pas capable de penser que mon compagnon puisse désirer quelqu'un d'autre. Bon, je sais qu'il en désire d'autres, c'est normal, tout ça. Puis même moi, je vais arriver, puis je vais regarder un autre homme, puis il va avoir du désir à certains moments. Mais j'ai beaucoup... Fait que ça, c'est un défi pour moi. Pour moi, c'est un défi qui me permettrait d'être. Parce que quand je suis là-dedans, je ne suis plus... Je suis complètement perdue dans cette folie-là. Ça devient de la folie.
Donc, à ce moment-là, ce que tu disais, tu recherches des moments de solitude, d'être pleinement bien avec toi-même, même si tu as quelqu'un dans ta vie. Qu'est-ce que tu voulais dire au juste tout à l'heure?
Oui, dans le fond, c'est ça, c'est que j'hésite à avoir le défi de relever justement ce défi-là, de travailler pour ne pas être jalouse, ou bien de plutôt me ramasser toute seule pour être justement, pour ne plus vivre cette souffrance, cette blessure.
Oui.
Puis, pour justement avoir le plaisir d'être.
Ben,
d'être
moi, seul. Ma suggestion, ça serait de justement de demander à ton compagnon d'avoir une autre femme pour accueillir ta peur. Comme je parlais des maladies tantôt, c'est que tu as le cancer, qu'est-ce que tu fais avec ton cancer? Tu as ci, tu as ça, serre-toi-en. Donc, au lieu de. Parce que si tu fuis, de toute façon, ça revient toujours au galop. Tu ne dois pas régler quoi que ce soit. Comme aujourd'hui, on donne du Ritalin aux jeunes enfants. Il n'y a aucune guérison là-dedans. Ils mettent un tranquillisant dans l'enfant et puis on le met sur off pendant 10 ans. Puis plus tard, il s'arrangera avec ses troubles. Et moi, je pense que l'important, c'est de faire face à la situation. Donc, s'il y a de la jalousie, tu vois, cette semaine, il n'y en a pas eu. Avec mes deux compagnes. Peut-être un petit peu au début, mais elle s'en est servie parce qu'elle s'en est servie pour aller plus loin. Mais elle a senti que je m'occupais bien d'elle. Au début, ça a été plus difficile. Il y a 3 ans, là, quand on a commencé, elle n'était pas habituée à ces choses-là. Elle se sentait trahie et tout. Mais je lui dis, je n'étais pas trahie. Je t'ai dit à l'avance que j'allais faire l'amour avec cette femme-là. Et là, elle a fait un processus et elle s'en est servie. Et je vois maintenant que c'est une femme beaucoup plus équilibrée. Parce que si on fuit un démon, il finit toujours par revenir. Et moi, je te dirais, c'est le temps. Vas-y, dis-lui, puis permets-lui et regarde-toi. De toute façon, tu es entouré de gens qui peuvent t'aider.
Mais en même temps, on a chacun notre style. Je suis d'accord avec toi sur le principe et tout, sur le fait de s'expérimenter. Mais en même temps, c'est un grand point que j'ai pu me rendre compte. Je parlais de mon expérience la semaine dernière. Mais évidemment, j'ai tout le long de ce processus-là, je ne me suis pas senti mis de côté. C'est sûr, ça, j'aurais peut-être pas du tout la même version des choses, la même vision de cet événement-là. Si je n'avais pas autant senti de mon compagnon, autant d'ouverture à moi, de gentillesse, on avait pris un très bon repas avant, puis pendant la soirée, puis toutes les marques d'attention, il me faisait des sourires, il me séduisait tout au long de cette fin de semaine-là. Et donc, j'étais d'autant plus ravi qu'il puisse s'intéresser à d'autres personnes que moi, donc parce qu'on a déjà une très belle complicité. Donc, je me dis, peu importe ce que la personne vit, quand on aime quelqu'un, on veut le bonheur de l'autre. Moi, si je l'aime, ce gars-là, je veux qu'il soit pleinement heureux. Donc, il pense à moi, je pense à lui en retour. Donc, évidemment, il y a une base communicante là-dessus. Là, oui.
Parce que je me rappelle, au début de la semaine, elle m'a dit la même chose. Ma compagne m'a dit, hein? Je veux pas me sentir mis de côté.
C'est vrai.
Je vais être contente pour toi, qu'elle soit là avec toi, mais je ne veux pas me sentir mis de côté. Puis finalement, je me suis très, très bien occupé d'elle. J'ai continué mes petites attentions. Et c'est là le danger, c'est de tomber dans la folie des émotions. Et je pense qu'il faut... ça te permettrait en même temps de voir comment est ton compagnon, par exemple. Mm-hmm. Il est vraiment? Est-ce qu'il va s'emballer puis te laisser? Mais s'il fait ça, finalement, il ne t'aimait pas. S'il trouve l'équilibre et puis il est capable de faire la part des choses, ah ben tu dis, là vous avez grandi ensemble.
Si on revenait à l'être.
Oui, l'être, est-ce que, oui.
Pour moi, l'être, quand on peut le retrouver quand on médite. Et si je médite puis je me connecte à mon être, c'est Dieu que je retrouve. Et quand je suis dans cet état, bien, je suis un avec Dieu et un avec l'univers. Et mon Dieu, c'est cet état-là que je voudrais tout le temps. Puis il n'y aurait pas de jalousie. Dans cet état-là, je ne vivrais pas ces moments-là. Et je pense qu'il y en a qui sont arrivés à pouvoir vivre tout le temps cet état de connexion avec Dieu, avec cet être suprême.
C'est le bonheur, finalement. C'est
dans le sens de l'absolu.
Lorsque tu es heureux, tu es libre. Et la liberté amène ces choses-là. Et moi, je suis vraiment heureux, fondamentalement heureux. Je ne me sens pas menacé. Je ne sens pas qu'on peut m'enlever quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je peux entrer dans des moments d'incertitude comme ça et garder ma paix. Parce qu'il y en a dans ma vie des moments d'incertitude. Je suis quelqu'un d'un plutôt inquiet, qui réfléchit beaucoup. Mais ce n'est jamais des inquiétudes profondes. C'est toujours des petites choses en surface. Mais en réalité, je suis beaucoup plus que je pense. Il y a des jours que je pense plus que je suis. Mm-hmm. Mais la majorité du temps, je suis. Parce que, justement, j'ai toujours été sincère dans mes désirs. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux être artiste, je veux écrire des livres, je veux avoir plusieurs femmes dans ma vie, je veux faire des choses qui me nourrissent et je veux pas nécessairement travailler dans des domaines qui sont simplement alimentaires. Et je réussis bien, j'ai ce qu'il faut pour pour être.
Excusez-moi. Sans doute, justement, que ce qui se passe dans la vie, dans ce qu'on voit des gens autour de nous, beaucoup de gens se retiennent tellement, vivent pas leurs désirs pleinement, vont pas vers les gens, comme je disais tantôt. Donc, je pense que c'est plus qu'un défi. Je pense que ça doit faire partie de la vie de chacun pour être en harmonie et pour qui va dans le sens du fait de s'aimer, de répondre à tout, de ne pas se retenir, puis de faire ce qu'on a vraiment le goût dans la vie.
Bien, soyez mes amis, c'est sur cette pensée qu'on vous laisse réfléchir à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.
Bonne semaine.
Merci beaucoup, Nicolas.
Et puis, on va vous laisser avec une chanson de Tenny qui s'appelle « Action et vérité ». Et je voudrais remercier le mouvement Jovialiste et Radio Centre-Ville de nous appuyer dans ce projet. Et je vous invite à venir écouter nos émissions et nos chroniques sur proposurlebonheur.com.
Action ou vérité, il est l'heure de faire ton choix. Prends ton temps, mais décide-toi. Mais dis-moi, est-ce que t'assumes moi? Je mérite la vérité, les secrets ne m'attirent pas. Vas-y, garde ta langue de bois et joue le jeu avec moi. Besoin de lever pour y croire. Action ou vérité.